RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Tous les jours, venez discuter, venez débattre avec les grandes gueules. Aujourd'hui, nous sommes avec Bruno Poncet-Cheminot et syndicaliste Mehdi Guézard, patron de PME, Barbara Lefebvre, professeur d'histoire-géographie. On parlera tout à l'heure dans le GG 7 et match du durcissement des règles d'indemnisation chômage. Est-ce qu'il faut les durcir? Oui, pour Olivier, Olivier. Non, pour Bruno et Barbara. On évoquera aussi tout à l'heure à 10h20 la SNCF qui... passe un accord direction syndicat, mais vous allez voir que c'est un accord qui est très très favorable, visiblement, à une partie du personnel. C'est presque un détournement de la réforme des retraites.
En attendant, on va évoquer un détournement de la réforme.
Bruno Poncet sera en retraite dans 6 mois.
Voilà. Bah, sauf que moi, je ne suis pas concerné, mais bon, c'est pas grave.
Allez, attendez, on va en parler tout à l'heure à 10h20. Attendant, on va évoquer Kenji Girac.
On fout, je vais faire
bien. Les grandes gueules.
Oui, Kenji Girac, il sera entendu dans la journée par les enquêteurs. Il va s'expliquer sur cette blessure au thorax causée, paraît-il, par la manipulation d'une arme. Alors, est-ce que c'est crédible? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Dans tous les cas, oui, il faut le croire. C'est ce que dit l'un des fondateurs des Gypsy Kings, qui est très ami avec Kenji Girac.
C'est vraiment un accident, ce qui est arrivé. C'est lui-même qu'il a mal manipulé l'arme et il s'est blessé seul, quoi. Il n'y a pas d'autre chose. Chez nous, il n'y a pas d'heure pour jouer dans la guitare, pour chanter, ou quelqu'un pour nous faire voir une arme. Oh, c'est joli, je vais faire moi voir. Boum, ça, c'est parti, c'est pas autre chose. Nous, on ne fait qu'à la fête entre nous. Kenji, c'est un chanteur, c'est une star des gitans. Et on est très, très, très malheureux pour ce qui est arrivé.
Voilà, il n'y a pas d'heure pour faire la fête, même pour manipuler une arme, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc le coup est parti, boum.
Oui, alors, il y a encore quand même beaucoup de questions sans réponse, des mystères autour de ce qui est arrivé. Alors ce qu'on sait, c'est qu'à 5h25 hier, le SAMU est appelé pour porter secours à une personne blessée par arme à feu sur l'aire de Grand Passage à Biscarrosse. 80 caravanes sont présentes sur l'aire, toutes appartenant à la famille et aux proches du chanteur. La personne blessée est donc Kenji Girac. Il est blessé par balle à la poitrine. Il est dans un état grave d'ailleurs à ce moment-là, mais conscient. Il est transporté à l'hôpital en urgence. Il a été opéré. Il est sorti du bloc. Il n'est pas en réanimation. Il est donc dans un état susceptible d'être entendu par les forces de l'ordre, par les enquêteurs. Ça sera le cas aujourd'hui. Bon, il va donc être auditionné parce que ce qu'il a raconté pour l'instant, ce n'était pas dans le cadre de l'audition, effectivement. Il aurait expliqué que il manipulait une arme qu'il avait achetée dans une brocante. Bon, alors, ce qui était étonnant, c'est que l'arme, on ne l'a pas retrouvée au pied de sa chaise ou de son lit. On l'a retrouvée dans un buisson.
Ça, c'est
donc,
le recul.
Donc, comment, recul de l'arme. Comment l'arme s'est retrouvée dans un buisson si on part sur le scénario d'une manipulation dans sa caravane? Donc, il y a une première question. Deuxième question, il y a aussi l'heure. Que faisait-il au milieu de la nuit? Alors, on sait qu'il y aura forcément des analyses toxicologiques qui vont être effectuées et on verra si, effectivement, dans quel état se trouvait le chanteur. Il y a une autre question. Beaucoup disent que, a priori, ce type d'arme, on le trouve pas comme ça, on les trouve pas comme ça dans une brocante. Bon, donc d'où vient l'arbre? Pourquoi se trouve-t-elle dans un buisson? Que s'est-il réellement passé? En tout cas, une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire. C'est assez large, c'est pour permettre aux enquêteurs d'agir pleinement et avec les moyens nécessaires.
Alors, est-ce que vous croyez à la thèse accidentelle? Oui ou non, Bruno?
Déjà, moi, j'ai une pensée pour tous mes amis de la communauté des gens du voyage, parce que Kenji Girac, c'est vraiment une idole pour eux, en fait. Parce que quand on parlait des gens du voyage avec Kenji Girac, on parlait de quelque chose de positif, de quelqu'un qui avait réussi, qui gardait ses valeurs familiales et des gens du voyage, parce que c'est très important pour eux. Et là, effectivement, malheureusement, le rêve se brise un peu. Et oui, c'est quand même particulier de savoir que le pistolet se retrouve un peu loin de lui, sans chargeur. Tu manipules ton arme à plus de minuit, tu t'en mets un coup dans le thorax. C'est chaud, j'espère moi que ça reste qu'un accident et qu'il n'a pas été victime d'une tentative de meurtre ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même compliqué à entendre. Et puis bon, si les policiers après commencent à regarder un peu plus large, c'est que pour eux, ça leur paraît un petit peu bizarre. Après, moi je veux bien que les copains des Gypsy Kings veuillent remettre tout ça droit, mais à un moment donné, il faut qu'on regarde la vérité en face.
Faut enquêter au moins, quoi.
Voilà, faut enquêter, et puis voilà, et puis surtout, il faut protéger Kenji s'il se passe quoi que ce soit. Mais c'est tristoun, en fait, parce que ça reste quelqu'un qui a aimé des gens, parce qu'il a une belle image, et puis qui fait des choses bien depuis qu'il est connu. Donc,
il a été révélé à 17 ans,
dans The Voice.
Donc ça fait 10 ans qu'il est en haut de l'affiche.
Puis donner une autre image des gens du voyage, celle qu'on avait, alors qu'on n'arrêtait pas de leur tirer dessus en traitant de
27
voleurs de
ans.
Poules.
27 ans qui est l'âge terrible. Le club des 27, beaucoup de stars sont mortes à 27 ans.
Barbara.
Oui, bah, déjà, moi, j'aimerais juste connaître ce vide-grenier où on peut acheter des 9 mini, des 45, des Glock 45 mm.
C'est dans le bassin d'Arcachon.
Ah, voilà, ça doit être ça. Alors, moi, je ne vois pas
fréquenter les bons vide-greniers. Les cannelés, les armes sont leur
truc. Ça va être le mystère de la chambre jaune, cette histoire. Mais bon, non, mais moi, je crois aussi que M. Kenji Girac, qui a l'air fort sympathique au demeurant, n'a pas envie de dire ce qui s'est passé. Apparemment, ses proches non plus. Voilà. Apparemment, ses proches non plus. Et apparemment, des gens qui n'étaient même pas là, qui n'étaient même pas sur les lieux non plus, qui ont l'air de savoir aussi que c'est un accident. Donc, déjà, ça met une drôle d'ambiance, je trouve. Hein. Tous ces gens qui ne le connaissent ni d'Ève ni d'Adam, ou qui le connaissent vaguement, ou qui ne l'ont pas vu depuis 10 ans, mais qui vous disent non, mais c'est un accident, il s'est tiré dessus tout seul. Bon.
Donc, les éléments de langage sont partagés par.
Personnellement, j'estime que si ce monsieur. Enfin, il se reçoit une balle dans le thorax, il n'a pas envie de dire qui c'est, ça le regarde. Bah écoutez,
ça le regarde, non, ça regarde la.
Si, écoutez, si eux, ils ont pas envie de dire qui lui a tiré dessus et qu'ils veulent régler leur truc, et ben,
non, moi je endroit.
Non, mais on va pas de force faire une enquête alors que Monsieur Girac peut-être ne voudra même pas porter plainte. Qu'est-ce que ça pourra bien faire de savoir qui lui a tiré dessus si lui-même n'a pas envie de le dire, s'il a envie de faire croire.
Bah, pour quelle raison on lui a tiré dessus? Enfin, pardon, Barbara, je comprends même pas ce que tu racontes. Bah,
non, moi
peut-être
je te dis.
Il a tiré dessus parce qu'on voulait se débarrasser de lui, peut-être parce que c'est une discussion
qui a mal
tourné.
Lui.
Peut-être parce que. Enfin, c'est normal.
Non, mais d'accord, mais sauf que lui.
Jusqu'au bout de l'histoire.
Non, je te dis simplement que lui.
Même s'il lui porte pas plainte.
Lui, en tant que victime.
Il porte pas plainte. Heureusement que la justice se.
Ah, d'accord.
Jusqu'au bout.
Donc la loi est la même pour tous, donc.
Mais il n'y a pas besoin de plainte.
Non, mais je veux dire, lui, monsieur Kenji Girac se prend une balle, apparemment. Il dit que c'est lui qui l'a tiré. Il n'a peut-être pas envie qu'on élucide l'affaire parce que ça mêlerait peut-être des histoires personnelles, familiales, etc.
Il n'a pas besoin de savoir ce que veut Kenji Girac pour mener une enquête.
D'accord, c'était juste que je voulais éclaircir. Donc, effectivement, la loi, c'est la même pour tous. D'accord.
Bah,
enfin, lui, en l'occurrence, il n'a pas envie qu'on vienne lui casser les oreilles, il veut qu'on le laisse tranquille.
Il y a une omerta certaine parmi cette communauté, ce qui est.
On veut régler ses problèmes en famille.
Ils veulent régler ses problèmes en famille, entre eux.
Ah, bah alors je comprends pas, c'est normal ou c'est la même.
Ah non, c'est pas normal.
Enfin, je comprends rien.
Les milieux, on n'aime pas trop que ça.
Il y a une solidarité, c'est une communauté qui est connue pour sa solidarité, pour son entre-soi et pour sa solidarité. Voilà, Kenji Girac a dit comme quoi il s'était tiré une balle dessus dans le thorax. C'est très difficile à croire, c'est sûr. C'est un peu tiré par les cheveux, la version est un peu tirée par les cheveux. Maintenant, il y a une enquête en cours, ils vont faire leur travail. Mais voilà, personne n'est dupe, tout le monde se doute un peu de l'histoire, comment elle a eu lieu. Maintenant, il y a une affaire en justice. Ça, pour moi, on va tous savoir la vérité dans pas longtemps. Et voilà, mais vous savez, il y a certaines communautés où la délation, ça marche pas.
Bah chez les socialistes aussi, alors, parce qu'autour de Mitterrand, ça tombait comme des mouches et on n'a jamais su la fin de l'histoire. Pela qui meurt dans les cuisines de l'Elysée, Bergoglio qui se suicide en se mettant une balle derrière la tête.
Le mec, il me parle de François de Grosso.
Ouais, François de Grosso.
À l'Elysée.
Voilà. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des communautés la loi du silence, tout ça.
C'est pas la loi du silence, c'est entre eux, ça se règle entre eux. Les gens du voyage, il y a une sorte de patriarche et tu sais, c'est le droit d'aînesse est très respecté, l'ancien est respecté
dans toutes les communautés, mais dis ça, je pense que chez toi aussi en fait, parce que moi chez moi c'est comme
j'ai vu des gamins qui n'en avaient rien à foutre de leurs parents, hein, qui disaient connard ou connasse à leurs parents,
hein.
Et tu sais très bien, d'accord, si les jeunes respectaient leurs parents, ils feraient pas les conneries qu'ils font actuellement. Non, pas dans toutes les communautés. Non,
mais
ce que je suis en train de te dire, c'est que justement ce droit d'aînesse et ce respect vers les anciens, c'est les valeurs fondamentales des gens, justement, se perdent de plus en plus aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a une société qui va mal. C'est parce qu'on ne respecte plus les anciens. Parce qu'on n'a plus de respect pour les anciens.
On les respecte,
on les respecte plus pour les anciens.
Et je suis en train de dire que dans une société, dans une communauté comme la leur, les anciens sont respectés, ils veulent régler ça entre eux. Je sais que la justice est saisie de l'affaire, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'ils vont faire leur enquête. Ouais. Mais voilà, ils ont des codes, des us et coutumes.
Mais qu'est-ce qui se passe si l'enquête va à l'encontre de ce qu'eux veulent?
L'enquête va aller à l'encontre de ce qu'ils veulent. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Je ne sais pas. Je ne suis pas procureur, je ne suis pas juge. Mais je suis en train de te dire qu'à l'origine, ils voulaient régler ça entre eux.
Non, on l'en sait
la
pas.
défense n'a pas été bonne dès le début.
On part sur une hypothèse. C'est hypothétique, pour le moment.
Non, pas de règlement de compte. Moi, j'ai jamais parlé de règlement de compte.
Non, mais pardon, mais ça peut être. Toutes les hypothèses sont à table. Ça peut être effectivement.
Non, mais une bagarre, une
maladresse,
une soirée arrosée, et le mec, une phrase mal dite, un coup de nerf. C'est pas obligatoirement un règlement de compte.
Sa femme était sur place. Ça peut être aussi un différent conjugal.
Attention, hein.
ou un chanteur jaloux de son succès.
Kenji Girac, voilà, peut-être qu'il avait.
Julien Doré, peut-être.
Tu peux pas savoir. Il y a mille et une hypothèses différentes. Il ne faut pas dire que c'est un règlement de compte tout de suite.
Non, je te déconseille même vivement de dire.
Tu disais, voilà, ils veulent régler ça entre eux. Donc j'ai hâte. Régler ça entre eux.
Oui, attention, Mehdi, s'il te plaît. Mehdi.
C'était juste l'expression que tu employais.
Riche-toi, s'il te plaît.
Je nuance.
Pourquoi l'arme se retrouve dans un buisson? Qui l'a jeté?
D'ailleurs, ce matin, le campement où était Kenji Girac, ce matin, les caravanes ont bougé d'ailleurs.
Oui. Étonnant, ça.
Ils ont quitté
En termes de police judiciaire, je trouve ça un peu étonnant.
En termes de police judiciaire,
qu'on les laisse en aller alors que c'est une scène de crime, excuse-moi.
Ils ont peut-être le droit.
Ah ben,
oui, mais c'est bizarre qu'on leur.
Je peux poser autorise. La question de me demander si c'est pas bizarre, parce que normalement, on te gèle un petit peu la scène. À peine 24 heures après, tout le monde est parti.
On sent que les témoins restent sur place.
Oui, en général.
Celui qui a la réponse, c'est Kenji Girac.
À condition qu'il donne la vérité.
Il est à l'hôpital.
S'il veut pas, laissons-le.
Il va être entendu aujourd'hui. Et là, se posera la question de savoir, effectivement, comment.
Sa femme a été entendue,
parce que tu parles ou pas. Est-ce que tu dis aux enquêteurs ce qui s'est passé ou pas? Voilà. C'est. La question.
Moi, je pense sincèrement qu'il y a une omerta.
Christophe qui est avec nous. Bonjour,
c'est pas
Christophe.
Méchant.
Bonjour, les GG, comment allez-vous?
Bonjour, bienvenue Christophe. Vous êtes chauffeur VTC, vous êtes du côté de la Seine-et-Marne. La thèse de l'accident, crédible? On s'interroge, hein, simplement, Kenji.
Après, comme disent les intervenants, il faut laisser effectivement la place à l'enquête, mais je dirais que c'est quand même un peu... la coutume de faire les coups de fusil, il y en a quand même pas mal hein, dans ce milieu-là, je ne veux pas non plus généraliser, mais encore hier à Ribérac, j'ai lu que c'est pas de chez moi d'ailleurs, en Dordogne, il y a eu un mort, ça s'est shooté au fusil.
Des règlements de compte.
Ça arrive souvent parce que c'est une différente un différent point de vue, les us et coutumes, ça se règle. Alors moi, je suis dubitatif. Hein. Effectivement, je savais pas. J'ai entendu vous parliez d'une arme qui se retrouve dans les buissons. Le recul est un petit peu fort dans le truc. Je pense que c'est toujours une histoire. On revient à la base. Hein. On revient toujours à la base. Que ça soit les communautés du genre du voyage ou d'autres, ou Kenji ou d'autres, c'est toujours une histoire d'éducation. La nature revient. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, je veux pas.
C'est l'accident. Voilà, on dit que c'était un accident à 5h30 du matin.
Bah, souhaitons-le, c'est un accident, arme, mais il y a quand même une arme, quoi. Il y a une arme, c'est pas.
Oui,
on interdit déjà une bombe au poivre, hein. Donc une arme, qu'est-ce qu'elle foutait là?
L'arme, elle a été achetée à la brocante la veille à 4h30, elle a été payée en ticket restaurant. Enfin voilà, quoi.
C'est ça, ouais. Non, mais c'est ennuyeux pour ce pauvre gars, mais c'est encore un drame. C'est tous les jours, quoi. Non, c'est pas une lame, c'est un fusil. C'est malheureux. Bon, on peut toujours effectivement laisser la place au doute et puis imaginer que c'est un accident. Mais moi, ouais, ça me paraît, je suis assez dubitatif à
D'accord.
ce sujet, quoi.
Ouais. Christophe,
on est tous un peu.
Merci d'avoir été avec nous, Christophe.
Merci
dubitatif,
à vous,
c'est le terme que vous employez. Merci, Christophe.
Je pense qu'on va franchir un pas important puisque le chanteur va être auditionné officiellement parce qu'il a donné une première explication avec des incohérences. Là, il va être auditionné. Donc, forcément, les enquêteurs vont aussi souligner les incohérences de son premier témoignage et on va, à mon avis, savoir assez rapidement ce qui s'est passé.
Quel est votre sentiment? Est-ce que, comme Christophe, vous êtes plutôt dubitatif? La thèse de l'accident est-elle crédible pour Kenji Girac? Ah bah voilà. Non, 92,7%.
Il n'y a pas de place au doute, hein, comme dirait l'autre.
Ah, là, c'est en tout cas dans l'esprit de ceux qui ont suivi les GG.
Mais après,
qui ont
par
voté
contre,
sur
je,
les
pense, je pense qu'on n'a pas, on n'a pas été cool en ne souhaitant pas un bon rétablissement.
Mais si, on prend rétablissement à quel Girard.
Mais il faut le redire parce que le mec, c'est quand même une balle que ça soit par une tierce personne,
son activité,
par une tierce personne ou par lui-même. Voilà, il faut lui souhaiter un bon rétablissement. C'est quelqu'un qui est resté humble malgré son succès.
Dans un instant, SNCF, l'accord sur les fins de carrière. Il n'y aura plus de grève au mois de mai. L'accord prévoit une amélioration du dispositif de retraite anticipée. Donc, les cheminots et les syndicats ont réussi.
Arrêtez de me mettre avec ce syndicaliste.
Vous n'avez pas entendu. On réussit à détourner la réforme des retraites. On en parle avec vous dans un instant, 32-16.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, on discute, on débat avec vous, vous nous dites ce que vous pensez en toute franchise, bien sûr, au 32-16. Aujourd'hui avec Bruno Poncet, Barbara Lefebvre et Mehdi Guézard, on va reparler de cet accord qui a été passé à la SNCF.
RMC, les grandes gueules.
Vous vous souvenez de la menace de grève qu'il y avait pour le mois de mai, finalement, elle est levée. Pourquoi ? Parce que à la SNCF, la direction et les syndicats viennent de tomber d'accord sur ce qu'on appelle les fins de carrière.
Michel Audiard, dans un film, faisait dire à l'un de ses comédiens « La retraite, il faut la prendre jeune ». Et un autre expliquait « Oui, il faut surtout la prendre vivant ». Bah ça, du côté des cheminots, il n'y aura pas de problème parce qu'ils ont obtenu, et ça c'est à la SNCF le principe, hein, la paix sociale s'achète au prix fort, ils ont obtenu une application très favorable de la réforme des retraites. Une retraite, en fait, 15 mois avant l'âge légal. Alors comment ça va fonctionner donc ? Les cheminots occupant un poste pénible, comme les conducteurs ou les aiguilleurs, pourront entamer une cessation anticipée d'activité 30 mois avant leur retraite, avec 15 mois de travail rémunéré à 100% et 15 mois non travaillés rémunérés à 75%.
Ça veut dire 15 mois de travailler, donc tu es à la maison.
Oui, tu ne travailles plus, mais tu touches encore 75% de ton salaire. Pour les contrôleurs qui se sont mis, souvenez-vous, en grève récemment, le dispositif est encore plus généreux, avec une cessation d'activité s'étalant sur 36 mois, dont 18 mois, un an et demi, non travaillé, rémunéré à 75%. Les quatre syndicats ont voté.
Ils étaient d'accord entre eux. Ils étaient d'accord entre eux.
Et même chez Sudbury, chez Bruno Poncet, on décide de ne plus appeler à la grève.
Oh là là, ça n'a pas des prophètes, mais qu'est-ce qui se passe?
En plus, pour obtenir l'accord,
c'est mignon, tout
on
ça.
Avait menacé de perturber le mois de mai avec
les Jeux olympiques et les ponts aussi, les ponts, les jours fériés.
Pour ceux qui avaient prévu de partir.
Ils vont partir.
Pas sur l'autoroute A13, mais pour les autres.
Non, avec la grève.
Pas de problème, il n'y aura pas de grève. Et en plus, je rajoute qu'ils ont...
Et les billets ne seront qu'à 350 euros pour Paris.
Je rajoute que ces mêmes cheminots vont obtenir, ou vont obtenir gain de cause sur la prime. Et il n'y aura pas de grève non plus cet été.
Voilà, pendant les Jeux Olympiques. Donc rendez-vous pour la prochaine grève, rendez-vous pour septembre, pour la rentrée. Voilà.
Moi, je dis bravo aux négociateurs de la SNCF. Si l'éducation nationale arrivait à faire le tiers du quart de ce que fait la SNCF,
à baisser le pantalon à ce point-là, bravo aux négociateurs. Ça, c'est sûr que...
Moi, je vais me faire embaucher chez Mehdi Guézard, mon gars. Je vais te mettre le feu dans ta boutique. Tiens, moi, je suis quand même serveur pour 50
mon ami, tu es le bienvenu.
Juste pour te foutre le feu dans ta boutique.
Mais tu es le bienvenu.
Je crée un syndicat.
Mais tu es le bienvenu.
Je crée un syndicat et après, je fous les mecs en grève. Et après, à la fin, tu nous paieras parce que...
Franchement, moi, pour moi, normalement, là, les négociateurs de la SNCF devraient négocier la dette de la France avec l'Union européenne. Parce qu'on n'aurait plus de problème. Parce que vu la renégociation, c'est vraiment des fins négociateurs. Et là, on serait tranquille.
Dans la disposition de l'accord, j'avais
acheter la paix sociale. Hein.
J'avais pas vu aussi qu'il y avait
acheter la paix sociale. C'est vraiment le
temps partiel de fin de carrière.
Le temps partiel de fin de carrière
qui est rémunéré 10% de plus que le temps réel effectué.
Olivier, tu as fait cette idée, Olivier.
Sérieusement. Bruno, tant mieux pour vous. Hein. On va pas jouer. Mais je pense toujours à l'artisan, à l'indépendant, au petit chef d'entreprise qui, lui, va devoir travailler, je ne sais pas jusqu'à quel âge, parce que de toute façon, chaque gouvernement, sa réforme des retraites, et qui en général fait travailler les gens plus longtemps, avec des montants de retraite qui vont être plus faibles. C'est vrai que là, on est en train de créer une France à deux vitesses, à propos des retraites qui peut paraître quand même assez étonnant.
Tu peux penser aussi aux fonctionnaires, parce que je suis désolée, mais moi aussi, hein, moi c'est jusqu'à 67 ans et demi hein, que je vais devoir travailler. Bah oui, donc, mais il n'y a pas que les artisans et les petits indépendants. Les fonctionnaires aussi vont travailler plus longtemps.
Excuse-moi, juste une question, c'est sincère par contre. Les nouvelles, les machines pour les TGV, les trains et tout ça, tout est automatisé maintenant. C'est que des boutons, ils appuient ou comment ça se passe?
Non, bah ouais, mais il y a.
Ils conduisent plus en fait, ils restent à l'intérieur, c'est de la sécurité.
Même si toi, t'as des chignoles qui roulent à 250, quand tu tiens un TGV qui est pas loin des 500 km/h, je pense que c'est la vigilance. Après, moi, je veux bien, on peut dire ce qu'on veut.
Non, parce qu'on parle de pénibilité.
Va conduire un TER.
Non, on parle de pénibilité.
Va conduire un TER quand tu as. Juste, moi, je veux. Enfin, après, moi, vous êtes bien lâché, vous êtes fait plaisir. Mais déjà, tous ceux qui voudraient à un moment donné, qui se diraient, ouais, mais ils veulent se barrer plus tôt, bah, tu sais, moi, quand je suis rentré à SNCF, ils avaient ouvert les portes en gros, ils n'avaient pas embauché depuis 15 piges. Ils ouvrent les portes en grand et moi, tous mes potes. Et on s'est tous dit, on s'est tous regardé, bah on essaye. Moi, j'ai plein de potes qui disent non, je veux pas aller là-dedans. Ça m'intéresse pas de travailler le samedi, le dimanche, de gagner. Parce qu'en plus, on gagnait moins. Moi, je travaillais mieux avant. J'ai travaillé avant dans d'autres boulots, en usine ou dans le transport routier. Je gagnais mieux qu'à SNCF. En fait, t'avais fait un choix. Aujourd'hui, par contre, moi, ce qui est clair, c'est que on peut dire ce qu'on veut. Mais il n'y a pas un cheminot qui part à 50 piges. Il n'y a pas un cheminot qui part à 55 ans. Aujourd'hui, ça s'est fini depuis longtemps. Les conducteurs de train, ça commence à 57, 58. Et les mecs sédentaires comme moi, c'est 64,5. Pour avoir, et moi, j'aurais pas le droit le truc de pénibilité
parce que les gens, c'est 67 pour avoir la retraite à taux plein.
Oui, ben nous aussi, parce que en fait, tu veux partir à 64, non, parce qu'il faut quand même 42 ans d'annuité en fait. Tu vois,
c'est 43, tu sais, dans le privé.
Oui, mais nous c'est 42 et même 42 quand tu rentres dans une boîte. Aujourd'hui, moi, voilà, exactement, t'as un an près. Et puis à un moment donné, on peut penser ce qu'on veut, mais là aujourd'hui, cet accord-là est signé par des patrons. C'est qu'à un moment donné, ça arrange aussi les patrons.
C'est pas. Attendez.
Non, mais attends.
C'est pas les patrons, c'est
monsieur Farandou qui est nommé par qui. Non, mais t'as déjà eu 10 minutes. Si tu veux pas que je parle, vas-y. Tu sais, moi, je peux même sortir et je peux même aller.
C'est pas les patrons.
Je peux aller bouffer une chips dehors avant de vous regarder faire votre émission.
Qui a signé l'accord, c'est Jean-Pierre Farandou qui est
patron. Ça reste un patron.
Mais non, c'est un salarié qui est nommé par l'État pour essayer de gérer la.
Alors, est-ce que Tavares est un salarié nommé par son conseil d'administration à 70 millions par an?
Oui, oui.
Bon, ok, d'accord.
Mais on l'a dit ici.
Moi, ce que je veux juste vous dire,
c'est qu'il rapporte plus d'argent que Farandou. Très franchement, puisque tu es avec nous dans les GG, il fallait sauver le mois de mai et il fallait sauver les Jeux Olympiques.
Non, mais ça, c'est un accord qui est négocié.
Oui, mais donc c'est pour ça que ça a été lâché, parce que franchement, là normalement, il n'y a plus aucune raison qu'il y ait de grève à la SNCF pendant 10 ans. Là.
Si, tu as quand même un problème de pouvoir d'achat, après, tu peux penser ce que tu
Il y aura toujours une bonne raison.
Ah, en mois de septembre.
Reconnais qu'il est.
Non, mais. En plus,
c'est un bon accord.
Parce que tu sais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si pendant des années, alors après, moi j'entends la prime charbon, ça, faut un peu se détendre, mais quand les conducteurs de train se barraient, tu vois, vers 50 et les autres à 55, c'est qu'à un moment donné, ils étaient carbo. Faut pas se faire d'illusions. Tu vois, il y a en Allemagne, les mecs, ils ont monté les boîtes privées en Allemagne, c'est 65 ans. Sauf qu'ils se rendent compte que leurs conducteurs de train, leurs aiguilleurs et aussi leurs contrôleurs sont inaptes. Sécurité, inapte à faire des erreurs desquelles, inapte à faire ce genre de taf, vers 55-57. Donc, ce qui fait que de 57 ans, t'en fais quoi? Et nous, la SNEF, là, ce que le patron signe aussi, c'est le fait d'avoir des inaptes à partir de 57-58 et de pouvoir les emmener en retraite normalement. Sauf que t'es des mecs sur toi que tu peux pas mettre nulle part parce que le mec peut plus travailler en horaire décalé et qu'à un moment donné, cette boîte ne travaille qu'en horaire décalé. Enfin, en tout cas, dans les bureaux, t'as des gens qui sont pas en horaire décalé, mais ailleurs. Donc, c'est aussi une protection pour le patron pour un moment de se dire, des mecs, au lieu d'avoir des inaptes et les raquer chez moi ou de les faire payer par la sécu de la SNEF ou quoi que ce soit, je vais leur donner un truc. Pour me permettre de dérouler. Parce qu'aujourd'hui, la réforme des retraites, elle n'est pas voulue non plus par SNCF réellement. Quand tu amènes des cheminots à 64 ans, alors que le mec, il est contrôleur de train.
Moi, je veux
bien. Mais si à un moment donné, c'était aussi bien, tous ces métiers-là, je te dis, on galérerait pas à recruter aujourd'hui que la retraite, elle est.
Pas un argument.
Mais si, c'est un argument.
Ah, si, c'est un argument.
C'est pareil pour toutes sortes de métiers.
Dans tous les métiers, excuse-moi, dans la fonction publique, chez les flics, on recrute, on n'arrive pas à recruter. Les infirmières, de l'hôpital public, on n'arrive pas à recruter. Les profs, on n'arrive pas à recruter. La SNCF, on n'arrive pas.
Mais
quand on vous écoute, c'est les métiers les plus planqués où on serait les plus tranquilles, où on gagnerait bien et où on n'aurait pas de raison de se plaindre.
On
ne
recrute pas
de
médecins non plus, donc arrêtez de. C'est ça, c'est l'argument.
Si t'en cherches des médecins.
Non, les médecins, on n'en retrouve pas non plus.
Non, ça, c'est à cause du numerus clausus qui n'a jamais été levé. Non, c'est le numerus clausus qui n'a pas été levé, qui a juste pris un autre nom.
Après, nous faire croire à limiter le nombre d'étudiants en médecine. Aujourd'hui, cheminot SNCF, c'est la bataille du rail.
C'est pas ce qu'on dit. Moi, je te parle pas d'Émile Zola, je te parle juste qu'à un moment donné, si ton patron, mon patron, parce que moi, mon patron, il signe jamais d'accord, en fait. Enfin, quand il donne des accords sociaux.
L'État a dit. L'État lui a donné.
Mais il n'a donné rien du tout.
Un mandat pour signer.
Mais il n'y a pas de. Enfin, tu peux penser.
C'est politique.
Après, t'as un sujet aussi. On est la boîte de transport en Europe qui fait le plus de bénéfices. Donc à un moment donné, ben voilà, t'es normal que tes agences qui créent ta richesse.
On aurait pu baisser les billets de train, mais on s'est dit tiens.
Ah ben ça, par contre, c'est pas mon patron. Bah par contre, si demain tu fais la grève du train parce que tu trouves que le billet est trop cher, vas-y. Mais la grève, c'est un truc que tu comprends pas trop en fait, parce que c'est un vrai concept la grève. La grève, c'est à un moment donné, c'est perdre des ronds.
Ah bah si, je comprends, c'est.
T'as jamais fait grève de ta vie, toi.
La seule boîte qui fait grève chaque année, c'est la SNCF depuis 1947.
Toi, t'as jamais fait grève de ta vie en fait.
Tu peux m'expliquer? Parce que moi, ce qui est génial, c'est que c'est tellement pénible que les gens ils font toute leur carrière à la SNCF. Toujours surpris de des gens qui se disent cette boîte est insupportable, mais les gens ils rentrent à 25 ans, ils sortent à 60 ans. C'est tellement pénible que finalement les gens restent.
Ils sortent pas 50 ans alors. Ben je comprends pas son discours depuis tout à l'heure. T'as dit 60. Ah, moi je croyais qu'ils sortent à 50 et à 55.
En moyenne, ça doit être 60 ans si tu prends les conducteurs et puis les cadres, ça doit être à peu près 60.
Ouais, mais tu sais les cadres ils se barrent en fait. Tu sais aujourd'hui on est dans une boîte qui est. Les cadres se barrent parce qu'en fait aujourd'hui moi il y a plus. Moi je connais plein de jeunes qui sont dans cette boîte.
Reconnais simplement que l'accord est très favorable.
Mais je te dis pas le contraire. Si l'accord est favorable, c'est qu'à un moment donné, mes patrons, ça les arrange aussi. Arrêtez de penser que nous, on leur tord le bras.
On essaie de leur tordre le bras plus d'une fois.
Moi, j'ai fait sauver le mois de mai et les Jeux Olympiques.
Rappelez-vous, comme le mois de mai, la menace venait d'un collectif et pas des syndicats. On est bien d'accord.
Oui, mais ce collectif,
ils réclamaient quand même une.
On comprend que le pouvoir actuel, qui est quand même très impopulaire, qui a des élections européennes à gagner, c'est mal parti.
Ils s'en foutent un peu.
N'avait pas envie de se retrouver avec un front social compliqué à gérer au mois de mai et cet été.
Mais voilà.
Donc là, on vient de lever le problème.
Moi, je pense que vous faites de la SNCF.
On va l'évoquer avec.
Il y a des aiguilles du ciel, je crois.
Alors, eux, en revanche, ils n'ont pas obtenu
ils commencent. Après, il va avoir la RATP.
Oui.
On met sur la RATP, toi et moi, on met 10 euros sur la RATP.
Ils vont obtenir leur prime, ils l'ont déjà acquis.
C'est bon, qu'est-ce qu'il va y avoir après?
Castex, quand il est arrivé, il a été un peu plus intelligent que d'autres.
Alors, Barbara, et puis on écoute Thierry au 32-16.
Non, mais la vraie question aujourd'hui, c'est que la SNCF, les syndicats unis de la SNCF ont réussi à négocier quelque chose. Moi, j'entends bien l'espèce de... Moi, j'y vois beaucoup de jalousie, en réalité, à chaque fois. Quand la SNCF obtient quelque chose, le secteur privé jalouse parce que le secteur privé n'arrive pas à obtenir des conditions de travail et des conditions de rémunération qui sont, à mon sens, plus humaines. Donc voilà, moi, je dis bravo à la SNCF qui arrive à obtenir des choses que nous, par exemple, dans la fonction publique, on n'arrive pas à obtenir. C'est tout.
Ouais, bravo.
Thierry,
bravo,
bonjour.
Pour tes impôts aussi, Barbara.
J'en paye déjà assez comme ça. Moi, je veux bien que mes impôts. Laisse-moi finir. Je veux bien que mes impôts aillent à la SNCF si la SNCF elle entretient correctement les réseaux.
Là, ils y vont en première classe.
Et moi, je suis désolée. Si par exemple le RERC il est aussi mal entretenu, c'est pas de la faute des syndicats parce que ça fait des années que les syndicats disent ça va pas à l'entretien.
L'argent qu'on met d'un côté,
c'est la direction qui ne veut pas investir dans l'infrastructure des réseaux. Excuse-moi, je vais pas. Mettre les problèmes d'infrastructure sur le dos des syndicats,
mais la direction elle gère avec les syndicats. L'éducation nationale pendant 50 ans était cogérée.
C'était à l'époque d'Olivier
Truchot.
Non mais si, il y a une boîte qui est cogérée avec les syndicats et la preuve en est cet accord de cogestion.
Olivier Truchot,
avec Olivier Truchot, c'est René Coty, président de la République. C'est pas plus compliqué que ça.
La SNCF ne cogère pas avec les syndicats.
Ah non, certainement pas. Le patron, c'est l'État, tu l'as dit toi-même tout à l'heure.
Depuis le temps que les syndicats alertent sur la question des infrastructures et des problématiques d'investissement dans les infrastructures, excusez-moi, c'est la direction de la SNCF qui est sourde à ces appels. Et je suis désolé, donc c'est pour ça.
Mais vous imaginez que la SNCF.
Il y aura peut-être pas de grève, mais il y aura des pannes.
Est-ce que vous imaginez que la SNCF est la société la plus détestée des Français? Vous en rendez compte de ça?
Vous vous en rendez compte
que la SNCF est la société la plus détestée des Français?
Vous êtes
en grève 12 fois par an.
Non, 12 fois par jour, t'allais dire.
Mais vous êtes en grève tout le temps. Et là, vous êtes en train de dire... Les Français, il y a une loi de la retraite qui vient d'être
votée. Les Français étaient contre cette loi, je te signale, à 80% contre.
Eh ben alors, c'est quand même une loi, donc c'est pour tous les Français. D'accord, que tu le veuilles ou pas, on est dans une république.
Non, elle a été décidée dans le dos des Français.
Barbara, tu ne peux pas être républicaine quand tu le veux. D'accord,
non, c'est pas.
Excuse-moi, laisse-moi finir, s'il te plaît.
La République, c'est pas sort des institutions, excuse-moi.
Laisse-moi finir, s'il te plaît.
C'est pas sort
la
Macronie,
le 49-3.
C'était leur programme de Macron.
Voilà, c'était déjà.
c'était un des rares trucs voilà.
Emmanuel Macron. Et deux, on est dans une république, donc tu respectes les lois de la république. Je suis pas d'accord, moi non plus.
La gauche a voté Emmanuel Macron.
Je ne suis pas d'accord.
Je respecte pas quand on lui dit qu'on abuse du 49.3.
Non, bah ça mes amis, ils ont foutu le feu.
Je ne suis pas d'accord aussi pour cette loi. Mais malheureusement, cette loi a été promulguée. D'accord ? Sauf que ce que tu es en train de voir, ce qui a été fait là avec la SNCF, c'est quoi ?
Mehdi.
C'est un détournement de la loi.
Mehdi, t'es pas loin de la fractus, méfie-toi quand même.
Ils ont détourné la loi.
Mehdi, arrête le gras.
Ils ont détourné la loi. Tout simplement, ils ont détourné la loi de la retraite.
Mais moi, je vais te dire une chose. Si les Français sont cohérents, ils étaient.
Tout le monde a détourné la loi.
7 Français sur 10 qui étaient contre la réforme des retraites.
Mais ils changent de président, ils votent pour le président.
Elle est passée dans des conditions qui ne sont pas des conditions démocratiques. Mais c'est désolé.
Ils vont voter pour Ruffin.
Mais tu dis n'importe quoi, Barbara.
Mais tu dis n'importe quoi.
La prochaine présidence.
Tu dis n'importe quoi, Barbara.
On verra la prochaine présidence. J'ai entendu la gauche et Marine Le Pen dire que s'ils revenaient au pouvoir, ils changeraient cette réforme. On verra
s'ils auront un le courage.
On va prendre à Paris tout de suite.
Un le courage et deux la capacité de le faire.
C'est qui la gauche? C'est Glucksmann, c'est pas la gauche. Hein. C'est la droite. Hein.
Ton ami François Ruffin et l'ami Barbara. François. On verra. Et alors moi je peux prendre les paris, hein, des restos où vous voulez que cette réforme.
Excusez-moi.
C'est fini les restos.
Monsieur Ruffin, tant que Monsieur Ruffin a l'étiquette LFI, c'est pas mon copain.
Dans un instant, vous allez voir encore un bon moment de discussion pour les GG, pour les grandes gueules, puisque on va parler du durcissement des règles d'indemnisation chômage. C'est le gouvernement qui va reprendre la main parce que les syndicats n'ont pas réussi à se mettre d'accord, les partenaires sociaux. Donc c'est le gouvernement qui va reprendre la main et durcir sûrement à partir du 1er juillet. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce qu'il faut durcir? Oui pour Mehdi Olivier, non pour Bruno et Barbara.
Votez
en masse. On vous attend au 32-16.
RMC. 9h30. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Les GG. Eh ben alors, que se passe-t-il là? D'un coup, Anaïs, dégage.
Allez, merci. Allez,
arrêtez.
On va remettre un petit peu d'ordre là.
C'est
allez, parce que t'es passé devant la caméra en plus. Allez hop, en coulisses. Monsieur Mehdi Ghezard.
Mehdi Ghezard, il est indiscipliné, c'est insupportable.
Bah là, merci madame la professeure. Vu que c'était, c'est son porte-monnaie, c'est un lingot.
Il met une heure de colle, ça va être
mieux. Le patron d'entreprise, là, c'était son porte-monnaie, c'est le bruit des lingots qui tombent au sol. Je dors, l'autre. Moi, j'ai des pièces de 20 centimes parce que je suis qu'un pauvre cheminot, l'autre, il y a des lingots.
Allez, c'est on y va pour notre sujet de discussion sur l'indemnisation chômage.
RMC.
GG, 7 et match.
Je sais pas.
On a eu un échec des négociations entre les partenaires sociaux. Le gouvernement, du coup, a décidé de reprendre la main sur ce qu'on appelle les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Bref, l'assurance chômage. Les nouvelles règles seront fixées à partir du 1er juillet. Aujourd'hui, que dit-on ? Il faut avoir travaillé 6 mois dans les 24 mois pour commencer à être indemnisé. Parmi les scénarios évoqués, ça pourrait être que 6 mois, ou bien la même durée, mais dans un laps de temps plus court, 12 mois. Donc, ce durcissement est destiné aussi à pousser les gens à retourner vers l'emploi.
À bosser.
Est-ce que c'est une bonne chose? Oui pour Mehdi et Olivier, non pour Bruno et Barbara. Mehdi, t'as les 60 secondes, c'est parti.
Merci. Écoutez, moi, j'aime bien le modèle anglo-saxon. Si tu refuses un job, une proposition d'emploi, tu gardes tes allocations. Si tu refuses ta deuxième proposition d'emploi, on te garde tes allocations. Et si tu refuses ta troisième proposition d'emploi, on te supprime toutes tes allocations, d'accord ? Quand on est à la recherche d'un travail, il ne faut pas non plus, je suis d'accord qu'il ne faut pas tout accepter, loin de là, mais à un moment trop demandé ou avoir trop d'exigences, ça devient, dans un monde économique qui est très tendu et très difficile, ça devient pénalisant. Pour moi, actuellement, l'allocation chômage pendant 18 ou 24 mois est préjudiciable à la recherche d'un emploi activement. C'est pas moi qui le dis, moi je le pense, mais les chiffres le disent d'eux-mêmes, d'accord ? Il y a un tiers des personnes qui ne recherchent pas un emploi réellement. Tout le monde autour de la table et ne faites pas les faux culs à deux balles en disant que ça n'existe pas, d'accord ? Je ne veux pas d'hypocrisie. Non, c'est pas vrai. Non, tout le monde cherche un emploi.
Difficile avec notre équipe.
Tout le monde se réveille à 6h du matin, prend le métro, il va chercher de l'emploi, il va mettre des CV. Ce n'est pas vrai. Il y a une partie des personnes, je dis bien une partie, je ne fais pas une généralité, mais une partie qui est importante des gens qui sont en allocation, qui ont des allocations chômage, qui prennent leur temps.
Ça va les 60 secondes pour
trouver un boulot.
Alors,
et
réponse.
Qui attendent généralement les 6.
Donc il faut serrer la vis. Allez,
voilà.
Réponse.
Mais
et je sais qu'ils vont
nous
dire
rappellerons
c'est
à Monsieur Ghezard. Nous rappellerons à Monsieur Ghezard. Donc il y a 6 millions de chômeurs. Il y a en réalité seul un tiers des chômeurs qui sont indemnisés. C'est-à-dire qu'un chômeur sur trois seulement touche les allocations chômage.
Oui, ça donne droit quand même à des avantages.
Oui, mais
pas
des
avantages au chômage.
Les avantages.
Les transports gratuits.
APL qui sont revalorisés.
Le cinéma avec une réduction et les transports.
La crèche pour les gamins. La crèche pour les gamins.
Les écoles. Le tarif de la cantine. Pardon, Barbara.
Le nombre de chômeurs qui vont sur la Côte d'Azur prendre le TGV, je veux dire, il y en a une tarbasse. Ah, je veux te dire, les mêmes.
Tous ces avantages sont payés par ceux qui travaillent.
Alors, attendez, je peux te dire qu'il y en a.
Bien sûr,
je ne fais pas une généralité.
Je n'ai même pas pu finir.
Voilà.
C'est vraiment.
On y va.
Sur ces chômeurs, il y a énormément de seniors. Je crois qu'ils n'ont pas d'enfants à la crèche, mais c'est pas grave. Donc ils peuvent pas trop abuser de la crèche. Ça, ouais. Hein. Mais bon,
ils peuvent avoir le train.
Donc non, mais c'est incroyable la mauvaise foi de l'autre côté, parce que on a donc un tiers seulement des chômeurs qui sont indemnisés. Mais à la limite, ok. Deuxièmement, depuis que Monsieur Macron nous a fait le bonheur d'être élu et donc nous subissons sa gestion. On a déjà eu quatre lois différentes de réforme de l'assurance chômage. Ouais. Alors, soit ça marche pas, soit c'est des guignolos, parce qu'apparemment, il n'y a aucune réforme qui marche, vu qu'ils sont obligés d'en refaire une toutes les 5 minutes. Soit elle marche trop bien. Mais alors, si elle marche trop bien, on voudrait juste voir les évaluations. Et il y a à peine 6 mois, on avait fait la dernière réforme de l'assurance chômage. Donc c'est bien, on en refait une, mais on n'a même pas évalué celle qu'on vient de faire.
Elle a même pas été appliquée,
est-ce que Monsieur Attal pourrait déjà évaluer la réforme mise en place par ses prédécesseurs, qui date d'il y a à peine quelques mois, avant d'en durcir encore les règles, alors qu'on n'a même pas vérifié que ça fonctionnait ou pas. Donc moi, j'ai un vrai problème avec ça. Le fait qu'on fait succéder des lois qui vont toucher à peine à la vraie problématique, qui est la problématique de trouver l'emploi qui correspond à celui qui est en recherche d'emploi.
Seconde, à droite, 60 minutes.
Excuse-moi, en plus tu m'as coupé.
C'est toi qui envoie le débat.
Excuse-moi.
Après c'est une...
Après, Barbara, à droite, 4 heures.
Donc, deux points.
Elle a la 6, là.
Donc, deux points. Ça va taper. Donc, deux points de mon argumentation. Ça, je me permets de faire une réponse conclusive. Et si vous me coupez, ça va durer encore plus longtemps.
Vas-y, Barbara.
Un tiers donc des chômeurs seulement indemnisés. Deuxièmement, des réformes qui succèdent et jamais évaluées et on continue à durcir. Moi,
Barbara,
si vous trouvez que ça, c'est de la gestion...
Barbara, ton argument se peut se renverser. On a le système...
C'est le principe d'un argument.
On est le système le plus généreux en Europe en matière d'indemnisation de chômage.
C'est selon Barbara.
Et la France est l'un des pays qui a le plus fort taux de chômage. Donc je termine.
Au chômeur, non.
Donc je veux dire, à un moment donné, chômeur. Il y a quelque chose qui va pas. La deuxième chose, c'est que effectivement, il y a des abus. La troisième chose, c'est que on sait, tous les spécialistes disent que plus tu restes au chômage, plus tu as des difficultés à retrouver un emploi. Donc en fait, l'enjeu, c'est de retrouver un emploi tout de suite. Et d'ailleurs, on devrait même inverser les choses. On devrait toucher peu au début et beaucoup, effectivement, lorsqu'on est chômeur longue durée, parce qu'on sait que les chômeurs longue durée, c'est plus compliqué, notamment lorsqu'ils sont seniors. Donc si on avait le bon système, le meilleur système, ça serait effectivement. Non, parce que si tu donnais rien au début, les gens, je peux te dire, se dépêcheraient de retrouver un boulot. Donc en fait, c'est ça le meilleur des systèmes. Ça donne rien au début et ensuite, on donne beaucoup quand tu es dans une situation qui est compliquée parce que c'est un chômage qui se poursuit.
Et là, tu encourageras le travail précaire.
Et c'est un système d'ailleurs qui est préconisé par certains et qui marche sans doute mieux que le nôtre. Parce que, Barbara, toi, tu nous défends une France qui marche forcément formidablement bien. C'est vrai. Je veux dire, on a plus de chômage. On a un système qui nous coûte une blinde.
Elle n'a jamais aussi mal fonctionné, la France.
On a un système qui nous coûte une blinde et tu nous dis qu'il faut continuer.
Mais qui a instauré ce système? Ce système
1945, des travailleurs après la guerre.
Les dernières réformes de l'assurance chômage, c'est Monsieur Macron. Son système apparemment ne fonctionne pas puisque ça ne ramène pas plus de gens dans l'emploi. Les seuls. Le chômage, il a baissé à cause de la croissance. Le chômage a baissé parce qu'il y a eu un petit rebond de croissance depuis on est de nouveau dans la crise, ça se recasse sa binette. Alors, donc c'est pas vrai.
Le chômage a baissé quand même.
Tu peux pas comprendre.
Non, tu sais quand ça a baissé. Ça a baissé
avec les apprentis.
Non, Olivier Truchot, Barbara, même la chèvre qui est kidnappée au fin fond de la Bolivie, c'est de la faute à Macron. Barbara, tout est de la faute à Macron.
Barbara,
c'est qui dirige la France depuis 10 ans?
Non, mais c'est tout est de la faute à Macron.
Barbara, le chômage a commencé à baisser sous François Hollande avec les réformes qu'il a mises en place. Il a changé de politique en cours de quinquennat. D'ailleurs, ça lui a coûté cher sans doute parce qu'une partie des socialistes sont devenus des frondeurs. Il a fait une politique de l'offre qui a poursuivi Emmanuel Macron et cette politique a porté ses fruits. C'est d'ailleurs la politique qui est menée dans tous les pays qui ont un chômage à 3%. Mais Barbara a peut-être des leçons d'économie à donner à tous ces gens.
Mais apparemment, ça fonctionne pas puisqu'on est toujours à 7%.
Oui, ah parce que on a un système sans doute trop généreux.
Donc voilà, donc pour toi c'est la faute des chômeurs, pour nous c'est pas la faute des chômeurs.
Pas dit que c'est la faute des chômeurs.
Je te dis qu'il y a une partie, il y a une partie des chômeurs bien sûr qui ont rien envie de faire et qui restent à la maison sur le canapé. Non mais je suis d'accord, sauf que tu vas taper, ça c'est à mon avis ce pourcentage là c'est 5% des chômeurs à tout casser.
C'est bien.
Donc on va faire une réforme pour 5% des chômeurs.
Mais c'est pas
Non, il faut faire une réforme.
Il n'y a pas de petites économies.
Non, il faut faire une réforme.
Il n'y a pas de petites économies.
Tu veux que je te la trouve moi l'économie ? Tu veux que j'aille la chercher l'économie dans les dividendes du grand
SNCF déjà,
des grands patrons et du capitalisme financier. Là, je te les trouve l'argent.
Eux, ils nous coûtent rien.
Tu
ne
trouveras pas les milliards d'euros dont l'État a besoin chez les 5% de chômeurs qui glandent sur le canapé. Excuse-moi.
Bruno Poncet.
Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, évidemment. Après, il y a un vrai sujet aussi, c'est l'emploi des seniors. Parce qu'il ne faut pas oublier que les entreprises sont bien contentes de dégager un mec à 57 ans pour qu'il pousse qu'à 65 et qu'ils ne retrouveront pas de boulot. Ils peuvent en chercher, ils n'en trouveront pas. Après, l'indemnisation aussi du chômage peut se permettre à des gens qui ont perdu leur boulot dans des endroits où le travail n'existe plus, en tout cas le travail qu'ils savaient faire. Et ce temps de 16, 18, 24 mois peut te permettre aussi de pouvoir faire une reconversion et d'être accompagné. Ça permet ça. Et puis, il ne faut pas oublier que les gens, ils cotisent aussi au chômage. Quand t'as bossé 25, 30 ans de ta vie et qu'à la fin tu touches le chômage, donc t'aurais bossé 25 ans de ta vie, puis à la fin, au bout de 18 mois, on te dirait écoute mec, c'est bien, on arrête le chômage et puis tu vas vivre avec 200 balles par mois. Je pense qu'à un moment donné, il faut garder un petit peu aussi Moi je trouve ce qu'il y a un vrai sujet avec tout ça, c'est qu'il y a une réforme qui a été faite il y a 6 mois, elle n'est pas appliquée, parce que soi-disant, il faut que les patrons avec les syndicats s'entendent. Excuse-moi, mais le MEDEF s'entende avec les syndicats aujourd'hui sur tout ce qui est le monde du travail, c'est très très compliqué, voire même impossible. Donc tu sais très bien que ta réforme déjà serait pas appliquée, donc tu pourrais en faire une plus dure pour dire écoutez, j'ai fait de l'argent facile pendant 5 ans, maintenant je vais aller récupérer les milliards que je vous ai donnés maladroitement. Bah c'est ça, parce que cette réforme-là, elle n'est là que pour ça en fait, c'est juste pour récupérer du pognon dans des endroits où il y a de l'argent. Moi je suis désolé, mais moi je cotise pour le chômage depuis des années, j'en suis bien content, parce que moi j'ai connu le chômage à une époque de ma vie où j'ai cherché du taf, et le taf que je trouvais mon gars, il n'était pas bien payé, mais je le faisais quand même, parce que je détestais être chômeur, ça m'a fait flipper ma vie. Hein. Et je me suis retrouvé un mois au RMI en 98, juste après la communion, je peux te garantir, j'ai jamais autant honte de ma vie. Hein. Parce que je comprenais pas, tu vois, je savais plus comment faire pour survivre de mes moyens, et encore j'habitais chez ma grand-mère à l'époque, tu vois. Donc à un moment donné, tu vois, faut pas considérer le chômeur comme le mec qui se planque pour ne pas bosser. Quand je vois qu'il y en a 30% qui sont pas rochés, j'ai pas fini, je t'ai pas coupé, Mehdi. Non, je suis pas, c'est toi qui vais généraliser. Moi je trouve que les chômeurs, arrêtons de leur tirer dessus, parce que sans déconner, c'est déjà une situation compliquée, et je trouve que si t'as 70% de mecs qui cherchent du taf, eh ben moi je trouve que va donc voir les 30%, pourquoi ils vont pas en chercher.
Comment tu expliques qu'il y ait des centaines de milliers d'offres non pourvues et autant de chômage? Moi je pense que c'est pas la faute des chômeurs, je pense que c'est un problème d'orientation, de formation, c'est un problème des études qu'on propose aussi à nos gamins. C'est pas forcément mal payé, c'est là où tu te trompes. Mal payé.
Là tu te trompes,
c'est qu'il y a beaucoup de boulots très bien payés qui sont non pourvus. Mais vraiment, va voir les boîtes d'informatique, va voir les boîtes d'ingénieurs, etc. Ce que je viens de te dire, c'est donc un bien problème d'orientation, de formation et donc d'éducation nationale.
Mais on ne va pas demander à un mec qui était tourneur toute sa vie qu'elle veut sa boîte à
fermer. Dans l'enquête France Travail, une partie de ceux qui ont été identifiés, sanctionnés et qu'on a réussi à remettre manu militari dans l'emploi, 50% d'entre eux ont retrouvé un emploi précaire, c'est-à-dire pas un CDD, pas un CDI, et moins bien payé que ce qu'ils avaient avant. Voilà.
Mais ils travaillent. C'est quand même mieux que de rien faire.
Est-ce qu'ils gagnent leur vie décemment?
Gagner leur vie décemment en travaillant qu'en restant sur leur canapé.
Mais c'est un emploi précaire, dans 6 mois, le problème se reviendra. Ils auront pas au chômage.
C'est le statu quo. C'est à cause de ça que la France est l'un des pays qui a le taux de chômage le plus important en Europe.
On préconise déjà une réforme fondamentale de l'éducation nationale, je t'entends bien là-dessus, et de l'enseignement professionnel qui n'est pas fait aujourd'hui. On milite aussi pour des vraies remobilisations par la formation des chômeurs, alors qu'aujourd'hui, excusez-moi, mais France Travail, ils ne te remobilisent pas vraiment en te formant aux nouveaux métiers, parce qu'aujourd'hui, tu as 80% des métiers qui existent aujourd'hui qui n'existeront pas dans 20 ans, avec toute la transformation des métiers. Et là, ni l'éducation nationale n'est au courant, ni apparemment France Travail. Donc de toute façon, ils n'ont pas d'autre levier aujourd'hui au niveau du gouvernement que la rétorsion, parce qu'ils ne savent pas positivement inciter les gens au travail.
Alors on va regarder à la mi-temps où est-ce qu'on en est. Faut-il durcir les règles de l'indemnisation chômage?
Bien sûr qu'on va perdre.
Oui ou non? Oui ou non?
C'est Olivier qui vote là.
Alors on y va.
Non, vous allez gagner.
Attention.
Bien sûr, vous allez gagner.
Mais non.
L'émotion.
On envoie.
L'émotion prime.
Allez,
l'intelligence prime.
Ah,
55% de non, 55-45. Est-ce que ça peut bouger encore? 55% de gens ne veulent pas bouger, ne veulent pas toucher à l'indemnisation chômage, ne veulent pas durcir. Est-ce que ça peut bouger encore? Suite du match dans un instant.
Non, on meurt avec nos idées au mouvement.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.